Chapitre 10. 11 novembre 2010. Je retrouve ma chambre au Monge. Paul doit passer me voir pour me donner des nouvelles de Soutkovski. Où es-tu, vieil assassin? Où te caches-tu? Adèle doit être chez un patient. Que fait-elle chez ce patient? Le rassure-t-elle? Je me demande ce qu'elle a ressenti après m'avoir tout raconté. Comme je tourne en rond dans ma chambre, incapable d'écrire et de reprendre le scénario sur l'histoire de ma mère, j'ouvre la valise aux cassettes et en glisse une au hasard dans le magnétophone. Cela fait plusieurs jours que je n'ai pas entendu la voix de Colette. On devrait tous s'enregistrer à l'intention de quelqu'un, pour être un peu éternel. Au fond, réaliser des films, c'est la même chose, c'est éterniser. Et moi, j'ai cessé d'éterniser. Papa et maman l'ont fait grâce à leurs enregistrements musicaux. Pourquoi cette famille a-t-elle l'obsession de retenir le temps? On m'a souvent demandé pourquoi je n'avais pas choisi d'être musicienne, comme mes parents. J'ai toujours répondu « pour ne pas faire comme eux ». J'ai grandi aux côtés de deux adultes qui vivaient entre deux valises. Toutes mes vacances scolaires, je les ai passées chez Colette. Pas ou peu de moments intimes à trois. Un père penché sur son piano toute la sainte journée, une mère gracile accrochée à son archet, son violon calé sur l'épaule, des parents beaux, mais absents. Je devais avoir une dizaine d'années quand je leur ai demandé « Pourquoi vous m'avez faite ? Pour vous, la musique, c'est beaucoup plus important que moi. » Paralysés par ma question, ils ont échangé des regards d'animaux sauvages pris dans les phares d'une voiture. Puis maman a éclaté en sanglots, et m'a prise dans ses bras en me demandant plusieurs fois pardon, dans un murmure. Papa, lui, a ajouté « À chaque fois que je joue, c'est pour toi. Tu m'habites, ma fille, et je t'aime, bien plus que cet instrument. » Et jamais ils ne m'ont inscrite à un cours de piano ou de violon. Comme si moi, la prolongation d'eux, je ne ferais pas de musique. Comme si c'était exclu ou acté, que j'étais destinée à autre chose. J'ai pris des cours de danse classique et de dessin, ce qui me paraît complètement fou aujourd'hui. Ils m'ont offert ce magnétophone à cassette parce qu'ils connaissaient mon goût pour la variété. Puis plus tard, Colette, mon caméscope. Parce que très tôt, je lui ai signifié qu'un jour, je réaliserais des reportages dans le monde entier. Papa n'a pas eu le temps de savoir que je deviendrais cinéaste. Quand maman et Colette ont vu mon premier court-métrage, au piano, elles ont paru bouleversées. Colette a ri pendant toute la projection, comme une petite fille qui découvre un film de Walt Disney pour la première fois. Ma mère m'a glissé à l'oreille qu'elle était fière de moi, que j'étais infiniment doutée. Elle a fait ce lapsus. Au lieu de dire douée, elle a dit doutée. Elle glissait les choses importantes à l'oreille. Jamais elle n'a parlé fort, sauf quand papa est mort.
C'est arrivé 2 ans avant ta naissance, Agnès. Une balle perdue. Elle n'a pas eu le temps de souffrir. Elle est morte sur le coup. Quelle drôle d'expression. C'est pour rassurer ceux qui restent, les vivants, pour dire qu'il n'y a pas eu de souffrance. Pas le temps de dire ouf. 1 an après la disparition de Mokhtar, c'est ma petite sœur qui a suivi. Daniel avait 12 ans. Après ça, ma vie s'est arrêtée. Je veux dire, une partie de ma vie. La mère s'est mise à me regarder pour la première fois, mais pas par regret ou remords de ne pas m'avoir aimé. Non, elle s'est mise à me regarder comme une voleuse, comme celle qui aurait dû mourir, celle qui aurait dû être à la place de sa fille, son autre fille, sa véritable fille, l'adorée. Mon Dieu, pas celle-là, l'autre, tu t'es trompée. Un accident. C'est à cette époque que la marquise a quitté le marquis, abandonné l'assassin de Daniel. Et fait pas croyable, la mère est restée à son service. Elle a continué à préparer les repas et à lustrer les sols de celui qui avait tué Daniel par accident. C'est ce qu'elle répétait. C'est un accident, un malheureux accident. Le pauvre y est pour rien. Elle disait « le pauvre ». Et moi je me taisais. Je me pinçais l'intérieur du bras pour pas répondre que le pauvre se baladait un fusil à la main depuis toujours. Et le pire, c'est qu'après ce jour funeste, il n'a pas arrêté de chasser. Et c'est la mère qui a continué à nettoyer ses bottes et à préparer le gibier pour lui et ses amis. Daniel a rejoint le père dans le caveau familial offert par les sénéchals. Un beau caveau en marbre noir, avec un ange magnifique pour la représenter. Ils ont aussi payé les funérailles. Jean et Blaise m'ont pris la main pendant que le père Aubry faisait son homélie funèbre. La mère tenait pas sur ses quiboles et arrêtait pas de pleurer. Une vraie fontaine. Je l'ai pas regardée. J'entendais ses sanglots. C'est les sénéchals qui l'ont soutenue. Le monde à l'envers. On a jeté de la terre sur le cercueil. Et après l'enterrement, la marquise nous a dit qu'elle allait partir, quitter Guignon, et qu'elle souhaitait faire don du Steinway à Jean. Fallait trouver un local pour l'entreposer. Elle en avait parlé au directeur de l'usine et au maire. En attendant que Jean ait fini ses études, le piano irait au foyer municipal de Guignon. Je suis retournée sur le lieu de l'accident. La clairière de Blanche-Neige. C'est comme ça qu'on l'appelait avec Blaise. On allait là-bas pour voir les nuages et parfois on croisait une biche. C'est là que le petit corps de ma sœur est tombé, à 300 mètres du lieu où Sénéchal a visé, puis tiré un chevreuil. La balle a éraflé l'oreille de l'animal, mais a poursuivi sa course. Le marquis a tiré de nouveau, et cette fois, il l'a pas raté. Une balle entre les deux yeux. C'est après la chasse que le marquis et deux de ses acolytes ont remarqué l'absence de l'enfant. Elle était partie faire pipi en douce en se coulant dans la forêt qu'elle connaissait comme sa poche. Elle s'était accroupie, et puis plus rien. Elle avait pris la première balle derrière la tête. Elle était partie au royaume des cieux, comme le prétendait le père Aubry. On a découvert son petit corps vers 19h. C'est un des chiens qui l'a repéré. La marquise s'est chargée d'annoncer la nouvelle à la mère. J'ai toujours pensé que Georgette était amoureuse du marquis et que c'est ce qui l'a fait tenir après la disparition de Daniel. Savoir qu'elle vivrait à ses côtés, qu'elle le verrait tous les jours, respirait sa présence entre les murs dont elle s'occupait, dont elle était la référente, surtout après le départ d'Eugénie de Sénéchal. Et que, pénitent, le marquis lui parlerait encore plus gentiment. Je pense pas me tromper. Elle est devenue la maîtresse de maison, elle, la paysanne destinée à être mariée à un homme de petite condition. Un funeste destin lui a fait prendre du grade. Après le départ de la marquise, Sénéchal a engagé une bonne à tout faire pour soulager la mère. La soulager de quoi? Du chagrin dont il était la cause? Dans cette famille Septembre, il y a toujours eu deux clans. Le père, la mère et Daniel d'un côté, Jean et moi de l'autre. C'est pour ça qu'on reposera jamais ensemble, même après la vie. Je peux pas souffrir l'idée de retrouver la mère où que ce soit. Et j'en suis désolée pour ma petite sœur. J'ai été avec elle comme Georgette avec moi. Insensible. Et je m'en suis jamais remise. J'ai jamais voulu me marier ni avoir d'enfant à cause de ça. À cause de moi. De mon insensibilité à un endroit que je maîtrise pas. Comment j'ai pu vous aimer autant, Anna et toi? Jean et Anna. Mokhtar et Blanche. Blaise, Aimé et Louis. Et rester glacée face à ma sœur. Tu te rends compte? Si j'avais eu un enfant et que je l'avais pas aimé? Non. C'est trop de chagrin, trop de malheur.
Un jour, papa m'a emmenée dans le petit cimetière où reposent Daniel, Robin et Georgette. Je n'ai pas compris ce qu'il faisait devant la tombe de ces inconnus qui portaient notre nom. Je me souviens de l'ange sur la tombe noire dont parle Colette. J'avais l'âge où rien ne m'intéressait vraiment. J'ai traîné mon ennui entre les sépultures, j'ai redressé des pots de fleurs renversés. C'est l'époque où je passais mon temps à faire la tête et à lever les yeux au ciel dès que mes parents m'adressaient la parole. Enfant, papa m'avait confié qu'il avait perdu une petite sœur. Je lui avais demandé à quel endroit il l'avait perdue, et il m'avait expliqué que « perdue » signifiait « morte », que c'était il y a longtemps et qu'il l'avait peu connue. Je lui avais demandé si ça l'avait quand même rendu triste, et il avait répliqué « bien sûr, Une petite fille qui s'éteint, c'est toujours triste. Pourquoi s'éteindre? Pourquoi m'en parlait-il soudain? Comme avec la famille d'Anna. Ce drame d'où venait maman, la miraculée, c'était comme un ciel qui assombrissait les pièces lorsque nous osions l'évoquer. Est-ce pour cette raison que maman fuyait le quotidien? J'ai quelquefois croisé la mère, ma grand-mère paternelle, dans l'espèce d'hospice où elle vivait et où je détestais aller. Ce lieu m'effrayait, il sentait mauvais. Ses grosses jambes étaient bandées et elle ne souriait jamais, nous regardait durement. « Embrasse ta grand-mère !» me répétaient mes parents. Et je retenais ma respiration, je trouvais qu'elle piquait. J'ai oublié sa mort. Comment est-ce possible? Je n'en ai aucun souvenir. En revanche, je me souviens qu'ado, papa m'avait annoncé que Colette était hospitalisée à cause d'un chagrin. Le chagrin d'avoir perdu sa mère. Je ne suis pas allée chez elle aux vacances de février. Ils m'ont envoyée en classe de neige, où j'ai souffert le martyre. C'est là que j'ai découvert que je haïssais les sports d'hiver. Et là que j'ai compris à quel point Guenion c'était drôlement bien, que je faisais ce que je voulais, et surtout qu'il y avait Hervé, Adèle et Lies. À Pâques, j'ai retrouvé Colette. Je ne lui ai posé aucune question sur son chagrin. Je l'ai observée en douce. Toujours aussi mal fagotée, elle n'avait ni maigri ni grossi, ne pleurait pas. Elle me souriait et travaillait comme à son habitude. Mais je pensais que papa m'avait menti, qu'il avait trouvé un prétexte pour m'envoyer au ski. Paul frappe à ma porte, il a l'air contrarié.
« Ça va ?»
Il me regarde bizarrement. Sait-il que je suis au courant pour sa nuit passée avec Adèle ? Il y a un truc qui cloche, Agnès. Je l'observe, incapable de répondre que tout cloche depuis qu'on a découvert que Colette n'est pas morte en 2007. Je pense qu'il y a une erreur du labo. Quel labo? Celui qui analyse les empreintes sur le téléphone fixe de ta tante. Il y a tes empreintes, celles de Madame Septembre et celles de Soutkovski. Et il faut refaire les analyses. Pourquoi? Ça a foiré quelque part.